Donc avec ce 24e dimanche, eh bien, le cycle liturgique s'achève pour 2017. Et puis c'est un nouveau cycle qui va voir le jour. Et l'enseignement de la liturgie eh bien, se poursuit, comme à chaque dimanche, avec l'évocation de la fin des temps, ce qui est logique avec la fin du cycle de la liturgie. Alors, je voudrais aujourd'hui revenir un petit peu plus en détail sur le sens de ces paroles, parce que elles sont particulièrement difficiles, particulièrement inquiétantes, et je pense qu'il ne faut, faut pas les éviter, mais il faut regarder véritablement ce pourquoi elles sont là et à quoi elles correspondent. Alors, tout d'abord, il faut revenir au texte, parce que on est dans l'évangile de Matthieu, et si on lit l'évangile de Matthieu, en revenant, donc là on est sur le chapitre 24, si on revient sur les chapitres 22 et 23, eh bien on a un passage assez long, où on est dans une période où la Pâque se rapproche, où Jésus est à la fin de son enseignement, et Jésus enseigne un peu avant ce texte, il enseigne dans le temple. Et il a des propos qui deviennent de plus en plus incisifs, de plus en plus virulents contre ceux qui le menacent ouvertement. Et on est vraiment dans une période où la guerre est déclarée entre les pharisiens, entre les maîtres de la loi et ce Jésus qui annonce la bonne nouvelle. Alors, dans le texte précédent, eh bien, Jésus va mettre en garde contre les pharisiens et contre les maîtres de la loi. Il enseigne le peuple et il dénonce l'hypocrisie. Et il les traite, d'hypocrites. « Malheur à vous, maîtres de la loi, pharisiens hypocrites. » Malheur à vous, conducteurs aveugles, malheur à vous. C'est vraiment des phrases extrêmement dures, des mots très durs. Il les traite de serpents, de bandes de vipères. Donc vous voyez que le ton est vraiment monté. Et surtout, Jésus les accuse aussi d'avoir malmené tous les prophètes que Dieu leur a envoyés, puisqu'ils sont tous morts, et surtout, il leur dit, c'est que une fois que vous les avez tués, une ou deux générations après, vous les avez vénérés. Et en fait, chaque fois, le peuple d'Israël se comporte comme ça, et donc c'est là-dessus qu'il insiste. Donc on est sur une période de très très grande tension au niveau de l'enseignement de Jésus. Et ce passage qui nous est rapporté, eh bien en fait, Jésus, juste dans le tout petit passage précédent, Matthieu 24, 1, 15, Jésus sort du temple et là encore, ses disciples lui posent des questions. Et ses disciples, ils lui posent des questions sur la construction du temple, sur la fin des temps, et c'est là-dessus que Jésus va enchaîner sa réponse. Et tout d'abord, il leur prédit la destruction du temple. Et la destruction du temple, on n'imagine pas ce que ça représente aujourd'hui. C'est prononcer cette phrase, d'ailleurs il la prononce, il est déjà sorti, il est juste avec ses disciples, c'est une phrase qui mérite la mort. Il leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre, posez l'une sur l'autre et tout sera renversé. C'est vraiment terrible, le prophète Jérémie a failli être exécuté pour avoir fait une même prophétie identique. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Et d'ailleurs, c'est si grave que ça sera la seule et principale accusation qui sera reprise lors du procès avant la crucifixion. Et donc, on reviendra sur cette question de la destruction du temple. Alors, si nous rentrons maintenant dans ces phrases qui sont extrêmement, extrêmement délicates, extrêmement dures. Tout d'abord, Jésus parle de l'horreur abominable qui sera dans le temple. De quoi s'agit-il? Alors là, Jésus, il fait référence à une prophétie de Daniel, Parce que quelques temps après Jésus, eh bien, le temple sera véritablement détruit en l'an 70 et le culte sera interdit et il y a même une statue d'un faux dieu qui sera placée sur l'autel du temple. Dans le même temps, les allusions à la Judée, au sabbat, au temple, eh bien, ça désigne Jérusalem comme le lieu de ces événements. Et donc, ça nous renvoie aussi à cette dimension de faux messie, de mystification. Et en même temps, Jésus nous dit, eh bien, tout ceci, ça va se passer et ça n'empêchera pas que le Fils de l'homme va se révéler au monde entier. Et donc, dans ce texte, il y a une grande partie qui s'adresse à ses apôtres qui viennent de lui poser ces questions sur le temple, sur la fin des temps, et il leur dit « Ne vous laissez pas abuser par les faux prophètes. Je vous mets en garde pour que vous compreniez bien le sens de ces paroles. Soyez vigilants, je vous ai avertis. » C'est une des phrases. Voilà. Et donc Jésus parle des grands bouleversements qui sont liés à cette fin des temps, mais il parle aussi de l'espérance d'un renouveau. Il parle aussi de quelque chose qui va se transformer et sans doute se transformer dans la douleur. Par contre, le texte reste peu précis sur ceux qui auront part au royaume, ceux qui seront accueillis. Il n'est pas dans la désignation des uns et des autres. Il précise que chacun est invité à s'y reconnaître et que tout le monde doit mettre sa confiance dans le Fils de l'homme. La fin du monde, la fin de ce monde, c'est une promesse de renouvellement. Mais cette parole, elle est aussi une parole au sens large de nos vies. Et puis, le texte, il place, parce qu'il est extrêmement complexe ce texte, à la fin il place la leçon du figuier. Alors, il nous dit, lorsque ces rameaux deviennent tendres et que poussent les feuilles, vous savez que l'été approche. De même, quand vous verrez tous ces signes, eh bien, vous saurez que ce temps est proche. Et ce figuier, eh bien, il nous fait aussi penser à un autre figuier. Jésus a parlé quelque temps avant du figuier stérile, de ce figuier qui ne produit pas de fruits. Et ça renvoie à cette dimension des faux prophètes, de ceux qui donnent l'apparence, mais qui n'ont pas de fruits, qui ne portent pas véritablement de fruits. Et le Christ, lui, se veut à l'image de ce figuier vivant. Et puis enfin, il y a une dernière affirmation qui interroge, c'est celle qui porte sur la génération. Je vous l'affirme, en vérité, donc quand Jésus dit en vérité, ça veut dire qu'il énonce une vérité universelle. Votre génération ne passera pas avant que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et là, on se dit, ah ben là, on va prendre Jésus en flagrant délit de tromperie, parce que la fin du monde n'est pas arrivée. Alors, ceux qui travaillent sur les textes nous disent que derrière ce mot de génération, il y a plusieurs choses. Si il parle de génération par rapport au peuple d'Israël et par rapport aux gens qui l'entourent, eh bien, l'avènement des événements dont il a parlé, ça peut être la destruction du temple. Et à ce moment-là, eh bien, effectivement, il aura fallu une génération, moins d'une quarantaine d'années, entre les paroles de Jésus et la destruction du temple. Après, pour nous, on peut y voir aussi une génération à l'échelle de la dimension de l'Église. L'Église comme la génération des chrétiens. Et à ce moment-là, cette phrase, elle prendrait aussi un sens beaucoup plus universel. met dans ce texte, même s'il est difficile, même si ses paroles nous heurtent, ce qu'il faut voir, c'est que ce texte, c'est une invitation à rester toujours vigilant, à rester attentif dans nos vies par rapport à cette question qui est notre rencontre avec Dieu, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et pourtant, toutes ces précisions, elles sont importantes, parce que il s'agit de ne pas tomber dans le discours apocalyptique de certains chrétiens aujourd'hui, qui peuvent nous dire, eh bien vous voyez, ce qui est raconté dans ce texte, ça a déjà commencé, les attentats, les catastrophes naturelles qui se multiplient. Derrière cela, il y a souvent celui qui parle, et celui-là considère qu'il est le seul dans la vérité, et qu'il nous dit, convertissez-vous, venez à moi, et puis surtout, n'oubliez pas les donations, puisque cet argent, vous n'en avez plus rien à faire dans le monde qui passe. Méfiez-vous des faux prophètes, méfiez-vous des faux prophètes, encore et toujours, ce message de Jésus nous alerte. Ce n'est pas de cette dimension-là qu'il parle, et il s'adresse à quelque chose de beaucoup plus profond en nous, à ce retournement, à ces bouleversements intérieurs, et c'est aussi de cela que Jésus parle dans ce texte. Et pourquoi ce texte est placé là aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que l'enseignement de l'Église, l'enseignement de la liturgie, veut faire correspondre cette dimension et cette évocation de la fin des temps avec cette évocation de la fin du cycle liturgique. Parce que la question qu'on doit se poser lorsqu'on arrive vers la fin du mois de novembre, eh bien, c'est qu'est-ce que cette année liturgique nous a apporté ? Qu'est-ce qu'elle nous a donné d'apprendre ? Qu'est-ce qu'elle nous a donné de vivre dans les célébrations, dans les textes, dans nos prières ? Qu'est-ce que j'ai changé en moi ? Autour de moi, qu'est-ce que j'ai changé avec les autres ? Qu'est-ce que j'ai changé avec Dieu ? Voilà la grande et éternelle question face au temps qui passe, et c'est aussi face au temps qui vient. Qu'est-ce que je vais faire de ces jours à venir pour faire ce petit pas vers Dieu ? Qu'est-ce que je vais faire pour m'en rapprocher ? Qu'est-ce que je vais faire pour l'accueillir ? Que faire pour ouvrir mon âme et mon esprit à sa présence bienveillante et chaleureuse ? Et chacun est invité à se poser cette question, et la liturgie d'un nouveau cycle sera sûrement une réponse pour poursuivre ce chemin, pour reprendre l'ensemble de ce questionnement, pour poursuivre cette quête incessante, sans jamais céder à la peur, à la crainte, mais dans l'espérance et la confiance dans cette bonne nouvelle. Amen.